talmudique. Nous avons vu la semaine dernière avec George Arthur Goldschmidt qu'il existe des mots qui résistent à la traduction. Des mots qui nous disent leur impossibilité de se dire dans une autre langue. Des mots qui nous tirent par la manche, nous appellent et nous interpellent. Présence est l'un de ces mots qui s'arrête à la frontière de l'hébreu, langue qui ne possède pas de présent du verbe être à l'indicatif. Je peux dire j'étais ou je serai, mais non je suis. Et si le mot présent existe, il se dit ové, son dérivé ne signifie pas la présence, mais l'existence, avaya. Certes, l'hébreu propose certains mots de substitution pour dire l'énigmatique présence, comme nochach, mais ce terme signifie le vis-à-vis, ce qui est en face d'eux, d'où en présence de quelque chose ou de quelqu'un, ce qui ne dit rien de la réelle présence des êtres et des choses. Dans le texte biblique, l'infini du divin trouve place parmi les hommes en une shechina, que l'on traduit par présence, mais qui est un mot qui signifie plutôt ce qui est voisin, une sorte de tangence fragile de la transcendance et de l'immanence. Cependant, n'est-ce pas là un point de départ intéressant qui nous invite à penser toute présence comme cette fragilité, cette éphémère réalité entre être et non-être, cette fleur des steppes dont parle Liszt, cité par Yankelevitch, fleur qui pousse dans le sable des racines si superficielles que le moindre vent l'emporte et que l'on appelle la fiancée du vent. L'être humain n'est-il pas cette créature sublime qui offrit très tôt un séjour à cette fiancée du vent, un lieu qui se fit danse, musique, pierre taillée, puis image, peinture et sculpture. L'art ne serait-il pas ce qui nous permettrait de penser au plus près ce qu'est la présence, cette réalité qui s'expose et déjà se retire, qui se montre et déjà se cache pour devenir mémoire et désir. Voilà quelques réflexions qui me sont venues en découvrant les œuvres de Michel Nejjar qui expose au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 23 octobre prochain. Une exposition justement intitulée « Présence » au pluriel, dont la commissaire de l'exposition est Nathalie Azan-Brunet, dont je salue chaleureusement le travail. Rarement, je n'ai ressenti une telle adéquation entre un lieu et les œuvres exposées, comme si le lieu avait été construit pour elle, ligne et courbe et lumière d'une grotte originelle en laquelle surgirent un jour, dans un passé immémorial, les premiers balbutiements de l'humanité, ses premières traces, mains, visages, oiseaux et taureaux, lumière du sang de la création, accouchant des soleils et des chevaux de feu. Un double lieu, faudrait-il dire, puisque l'exposition se trouve à la fois dans les profondeurs du musée et dans ses hauteurs, dans la salle du Duc précisément, au cœur de la collection permanente, ce qui fait sens assurément. Michel Nejjar, vous êtes l'un des artistes d'art brut les plus exposés au monde, selon votre biographie, mais je sais à quel point vous n'aimez pas l'enfermement dans les catégories et les classifications asséchantes. Et pourtant, il est toujours intéressant et passionnant de situer un artiste dans son temps. C'est pour cela que je suis très heureux d'accueillir avec vous Jean-Michel Beaur, qui connaît bien votre œuvre et organise d'ailleurs très prochainement une exposition autour de votre travail au LAM, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Lille. Œil averti et aiguisé, cinéaste et expert de l'histoire du cinéma, conservateur en chef des collections du Musée d'art moderne de Beaubourg, Jean-Michel Beaur va donc nous accompagner dans ce voyage autour de votre œuvre. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Michel Nejjar, commençons par le commencement. J'ai évoqué l'art, mais je pensais aussi à l'artiste, Oman en hébreu, qui, comme le suggère le Midrash dans son premier commentaire biblique, est défini ainsi. L'artiste, c'est l'adulte qui prend l'enfant par la main pour l'amener à l'école, pour lui faire apprécier l'école. Belle expérience, Michel Nejjar.
Ah, c'est magnifique ce que vous me dites là, l'adulte qui prend l'enfant par la main. J'ai toujours eu du mal avec ce mot artiste pour définir, pour me définir quand je crée. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était ce mot était un peu me limitait quoi. Je me sens pas très bien, mais il peut être très pratique aussi pour sa déclaration d'impôt sur ça. Au quand on passe une frontière, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, je dis artiste. Donc c'est pratique dans ce genre de quotidien, mais voilà. Je pense que grâce à la création, j'ai pu garder le petit garçon que j'étais, avec toute sa sensibilité et son regard sur le monde. Et je pense que de résister aussi au monde adulte, de résister à ce terrible, terrible monde adulte, et grâce à la création, et surtout à la poupée, je peux encore être émerveillé en regardant les choses du monde. Et la création m'a permis, avec la belle expérience, oui, de la création et les belles rencontres grâce à ma création, m'a permis d'être.
Mais avant la création, il y a eu ces moments inauguraux comme l'école. Justement, l'artiste, c'est l'adulte qui prend l'enfant par la main pour l'amener à l'école. Mais avant d'avoir été artiste, vous avez été l'enfant qui a été amené à l'école. Alors, cette école, c'est une expérience peut-être inaugurale pour vous, Michel Nedjar.
Alors, l'école, j'étais un très, très mauvais élève, vraiment le cancre. Je ne comprenais rien du tout à ce qu'on me disait. Calcul, grammaire, c'était l'horreur, un vrai cauchemar. Mais le jour du dessin, je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. C'était la seule expression que j'avais. Et ah oui, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un jour, donc, ma maîtresse, la méchante, est tombée malade, parce que, bien sûr, on me tapait. J'ai reçu pas mal de coups parce que je comprenais rien et que j'étais vraiment complètement idiot devant ce qu'on m'enseignait. Et un jour, elle est tombée malade, donc cette maîtresse, il y a eu une remplaçante, une jeune femme. Ça a duré 15 jours, le remplacement. Et cette jeune femme, donc cette jeune maîtresse, jolie comme un cœur, elle nous a demandé aux gosses de ramasser une feuille morte pour la dessiner. Donc ça devait être l'automne. Et donc, voilà, j'ai dessiné la feuille morte. C'était à la gouache. Je me suis énormément appliqué. J'ai bien mis les couleurs, tout ça. Et à la dernière minute, avant de rendre le dessin, mon gobelet d'eau sale est tombé sur le dessin. Et j'étais assez affolé. J'ai essayé de récupérer le dessin avec la peinture. Et plus j'essayais, plus ça devenait quelque chose de complètement... Ça ressemblait plus du tout à une feuille. Parce que gestuellement, je l'avais complètement, en fin de compte, rendu invisible, cette feuille. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire engueuler comme d'habitude. Et le lendemain, en rentrant dans la classe, j'ai tout de suite vu que mon dessin était accroché au tableau. Et je me suis dit, oh là, je vais passer un mauvais quart d'heure. Donc cette jeune maîtresse m'appelle, elle me dit, Monsieur Nedjar, venez me voir. Et quelque chose m'a surpris, c'est qu'elle m'a quand même posé la main sur mon épaule. Et elle a montré le dessin à tous les gosses qui étaient là dans la classe. Et elle me dit, ça c'est une œuvre, ça c'est un artiste, et Monsieur Nedjar est un artiste. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. J'étais complètement étonné de ces paroles, ce que j'entendais, artiste, que c'était extraordinaire ce que j'avais fait, et pourtant pour moi c'est un accident. Et elle m'a dit, puisque c'est comme ça, elle avait vu que je foutais rien, que j'avais des zéros partout, elle me dit, puisque c'est comme ça, tu vas t'asseoir à côté de moi, sur le bureau, et tu vas dessiner. Donc, je dessinais toute la journée, je faisais des dessins, et c'était vraiment fantastique, j'y croyais pas, quoi. Et bien sûr, je suis tombé amoureux de cette femme, à tel point que tous les jours, je piquais quelque chose de ma mère, surtout un petit bijou dans sa table de nuit, et j'allais lui offrir. Et donc, au bout de 15 jours, il y avait beaucoup de choses. Elle s'est quand même un peu inquiétée. Elle a convoqué ma mère. Elle m'a fait sortir. Ils ont parlé ensemble. Et ma maman ne m'a jamais rien dit sur cette histoire, sur ce vol. Et j'ai retrouvé tous les bijoux à leur place dans la chambre de ma mère. Et au bout de 15 jours, bien sûr, elle est partie. Et ça a été pour moi son départ. Je me souviens, son petit copain est venu la chercher en moto. Et moi, je me suis accroché à la grille de la sortie de l'école qui était là. Et j'ai poussé un cri, vraiment un cri, parce que je savais que l'enfer allait recommencer pour moi. Voilà, Monsieur Nidjar, vous êtes un artiste.
Alors, Jean-Michel Beaubourg, nous sommes devant un artiste, voilà, qui a commencé très jeune, mais qui non seulement aime raconter des histoires, on l'entend, mais dont le récit fait partie de son œuvre de manière intrinsèque, d'une certaine manière. Et j'aime cette histoire juive qui pose la question « Quelle différence entre un tailleur et un psychanalyste ?» La réponse, une génération. Au-delà de l'humour de ce vitz, de cette blague juive, cela ne vient-il pas dire que le récit en analyse est une façon de recoudre, de réparer le fil d'une histoire impossible jusque-là ? L'artiste Michel Nidjar, tout comme l'historien et l'analysant, ne font-ils pas un geste du même ordre, à savoir, ils recousent, Jean-Michel Beaubourg.
Je crois qu'il a dit des choses très importantes autour des mots. D'abord, son hésitation sur le mot artiste. Il y a préféré le mot créativité, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la créativité. L'artiste, finalement, c'est un statut social, et ce statut social, il ne l'a pas recherché. Aujourd'hui, c'est un artiste, bien sûr, reconnu, et donc c'est venu. Mais il ne s'est pas décrété artiste au départ. Il était surtout dans cette question de sauver sa peau, finalement. Moi, je me souviens d'un séminaire sur le tremblement, où Derrida, qui était déjà très malade, avait fait un exposé absolument brillantissime sur la question du tremblement, qui est finalement notre essence humaine à tous. On est tous tremblants. On a tous cette fragilité. Alors après, on se construit, certains se construisent des carapaces comme on peut, hein, chacun sauve sa peau comme il peut. Et je pense que ce tremblement, cette fragilité, ce que vous appelez aussi cette cassure, ce que raconte Michel, c'est justement la reconstruction. C'est-à-dire la reconstruction, elle commence à partir de l'accident, du verre qui tombe sur de l'accident, de la chose où il pense que tout est fichu, finalement. Et puis il y a une parole, ça je pense que ça va vous plaire, hein, la parole salvatrice, voilà un artiste. Et là, d'un seul coup, bien sûr, il y a le bout du tunnel, c'est-à-dire là où il est dans une... où il est totalement inadapté, finalement, au système scolaire. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, il se dit, je ne sais plus quel mot il a employé exactement, mais il pourrait être totalement imperméable, perdu, finalement, dans ce monde qui n'est pas le sien. Et c'est l'accident, c'est le mot, finalement, qui le sauve. Et donc, là, il commence à recoudre. C'est ce qui me paraît vraiment très clair, hein, dans cette petite histoire merveilleuse, hein, de l'enfance et qui est le départ de tout.
Alors il faut préciser, pour qu'on comprenne bien le propos, c'est que Michel Nidjar, coudre et recoudre pour vous a un sens tout à fait fondamental, dans la mesure où vous avez été par la suite tailleur, parce que vous venez d'une famille de tailleurs et de chiffonnier.
Alors oui, bien sûr, donc comme j'avais aucune possibilité de suivre les études, tout ça, et que mon père était tailleur, mon grand-père était tailleur, ben ma mère m'a dit, ben écoute, tu seras tailleur comme ton père, et par l'école Lort de la rue des Rosiers, j'ai été placé comme apprenti tailleur rue Montorgueil. Alors, j'ai une grand-mère, ma grand-mère maternelle, la Pologne. Elle était chiffonnière. Et elle avait aussi en face une boutique de brocante. Et la boutique de ma grand-mère, elle vendait des chematesses, des vieux vêtements d'occasion, qu'elle chinait dans les quartiers riches, comme elle disait, rue Neuilly, avec son accent yiddish. Et de temps en temps, j'allais l'aider au marché aux puces de Saint-Ouen, le marché Malik. Et j'adorais travailler avec elle. C'était vraiment fantastique. Et en plus, faut pas oublier le contexte de l'époque. C'était les années 70, donc les hippies. Et donc tous les hippies de Paris, chic aux pauvres, venaient s'habiller au marché aux puces. Ça a été à un moment donné, le marché aux puces, là, à cette époque, était vraiment un moment de création. Il y avait même les couturiers. Yves Saint Laurent lançait la mode rétro. Il venait souvent au marché aux puces pour acheter aussi des prototypes. Et ça a été fantastique, cette époque. Et tous les hippies achetaient des costumes, des vieux vêtements à ma grand-mère. Elle avait beaucoup de costumes de théâtre. Et ça a été fantastique. Et je me suis pas rendu compte tout de suite, c'est après. C'est après, avec ce mot « schmates », et en plus, on mangeait sur le stand. Donc, elle me faisait aussi une nourriture très yiddish polonaise, et elle me disait toujours mange, parce que après quand je vais mourir, tu ne mangeras plus ça. Exactement, je n'ai plus mangé ça, à part le strudel un peu trafiqué de la rue des Rosiers, mais je n'ai jamais eu après ce goût de cette nourriture, je dirais presque cette nourriture presque du ghetto comme ça. Et elle me disait, tiens, mon schnorrer, mange. Elle m'appelait son schnorrer. Et ça, c'était extraordinaire. Et elle m'a passé. Et c'est là où ma judéité est passée. Et que je pense à ça maintenant, parce que j'ai pas été élevé dans la religion. Mes parents, après la guerre, ils voulaient oublier ce qu'ils avaient vécu, et moi je suis né en 47, et on s'appelle Nicole, Maurice, Dany, Hélène, donc, et puis on faisait Noël, la crèche et tout ça. Sauf qu'ils faisaient le Yom Kippour quand même. Et je pense que ce mot, ce petit schmates, ce petit chiffon de rien du tout, sans importance, pas très propre, pas très catholique, mais je pense que là est ma judaïté. C'est dans cette petite chose, ce petit bout de tissu, tout qui sert à rien, qui sert simplement pour les choses, pour nettoyer, quoi, et pour... Et moi, je n'ai fait vraiment le lien avec ma judaïté.
B.B. King, du blues, une musique que vous écoutez, que vous avez écoutée, que vous écoutez beaucoup, Michel Nejar, une musique née dans les champs de coton, coton qui filait, va devenir tissu, puis vêtement, puis chiffon. Et j'aime beaucoup ce morceau parce que, en fait, c'est un morceau avec B.B. King, mais il y a trois autres guitaristes, dont Eric Clapton. Et on sent la filiation, on sent la générosité de l'ancien, du maître qui regarde ses élèves, ses disciples avec un amour extraordinaire. Et ce petit je pensais donc ce coton qui filait va devenir tissu, puis vêtement, puis chiffon, un cycle de la vie au cœur de votre travail, comme ce petit morceau de tissu que vous avez évoqué, ce petit morceau de schmatos dont vous tirez le fil, fil qui fut aussi celui des années pendant lesquelles vous avez vécu cette expérience que vous venez de nous raconter, avec votre première maîtresse, avec votre grand-mère, avec votre mère, mais il y a aussi le père. Et j'ai bien aimé quand vous avez raconté et vous avez parlé de votre père, vous avez dit « mon père était tailleur et mon grand-père était tailleur ». On a entendu un double sens, il est tailleur et il est ailleurs. Et je sais que vous aimez beaucoup les jeux de mots, les mots à double sens, à double fond. Et comme votre œuvre, elle est à plusieurs sens. Et vous avez parlé aussi du goût du strudel. Et en hébreu, le mot goût ta'am, ça signifie aussi le sens des choses. Alors, votre père, Michel Nejar.
Alors, mon père, c'était le contraire de la situation, bien sûr, de ma grand-mère, mais du tissu, de la matière. Du côté de mon père, c'était le neuf, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Le commerce marchait très bien. Un père assez autoritaire, beaucoup de difficultés avec le père. Pas de parole, pas d'échange. Il me faisait très peur. Et donc la différence, voilà, je disais toujours que ma grand-mère est matière. Ma grand-mère, c'était la matière, et mon père, oui, avec ses grosses machines pour couper ce qu'on appelle les matelas, ça veut dire l'épaisseur pour couper, l'épaisseur de tissu, quoi. Il avait des grosses machines pour couper ça, et ça faisait un bruit. C'était vraiment des machines très cruelles, très très cruelles. Et donc, voilà. Et mon père était d'Algérie, juif algérien, l'homme de la Méditerranée, ses frères, sa famille, tous des grandes gueules, extérieurs, extériorisés, le contraire de la famille maternelle, où il y avait plus de silence. Et aussi, j'ai été élevé surtout par mes tantes, les sœurs de ma mère. Et ça, j'étais entouré de femmes. Mais du côté de mon père, il y avait des hommes, il avait deux sœurs, mais c'était complètement différent. La seule chose qui était extraordinaire, c'est au point de vue de la nourriture. La nourriture, le couscous, les gâteaux au miel, et chez ma grand-mère maternelle, le strudel, gefilte fish. Des nourritures différentes, puis au milieu, la nourriture française. Je me suis jamais senti juif polonais ou juif algérien ou juif français, je sais pas trop exactement, c'est très, très difficile, mais en même temps, j'aime bien me sentir ailleurs, tailleur. Et c'était un peu... C'était compliqué au début, c'était très compliqué au début. Et maintenant, et je pense aussi grâce, je le répète, hein, mais grâce à la création, les choses se sont, je dirais pas stabilisées, les choses se sont éclaircies pour moi, grâce à ce travail de création.
Et ce travail de création... C'est d'abord un travail, excusez-moi de vous interrompre, mais Mais je pense que vous avez parlé du schmatos, et c'est le schmatos, c'est des petits morceaux, comme vous l'avez bien dit, c'est un travail de récupération. C'est j'aimerais poser une question à Jean-Michel Beaubourg, parce que la récupération, c'est un acte artistique que l'on retrouve chez d'autres artistes. Je pense en particulier à Anselm Kiefer, que nous avons eu la chance de rencontrer dans son atelier avec vous lors de la dernière exposition à Beaubourg, dont vous étiez le commissaire d'ailleurs. Une façon de récupérer les objets pour récupérer le monde, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de mots. Un de vos catalogues, Michel Nedjar, s'appelle Animaux. Mais mots s'écrit M-O, je l'entends animaux, M-O-T-S. Il y a le jeu de mots. Et ce schmatos qui est récupéré, permet un travail sur la récupération, mais pas simplement récupération des objets, mais récupération du monde. Jean-Michel Beaubourg.
L'acte même de récupération d'objets qui ont été utilisés, qui sont recyclés d'une certaine manière dans une œuvre d'art, ça c'est une chose qui existe depuis le début du XXe siècle, avec Dada, avec Kurt Schwitters, etc., Picasso bien sûr. Mais dans le cas de Michel, ce sont des objets habités. C'est-à-dire que ce sont des vêtements, donc je crois qu'il l'a dit à un moment donné, des vêtements qui ont appartenu à quelqu'un, qui ont été portés, Et donc on rejoint d'ailleurs la question de la présence. La présence et l'absence. Le schmatès, c'est aussi la marque de l'absence, hein, de ce corps qui n'est plus. Et de ce point de vue-là, il me fait plus penser à quelqu'un comme Christian Boltanski. Quand vous aviez vu cette grande installation à Monumenta avec ces tas de vêtements qui, évidemment, font penser à des choses dramatiques desquelles on parlera certainement. Je pense que le schmatès chez Michel, c'est surtout ça. C'est cette présence-absence qui est
Oui, j'ai bien encore un jeu de mots. Habit, l'habit et l'habitation. L'habit est habité. Et toutes ces créations que vous allez faire pendant des dizaines d'années, Michel Nedjar, c'est à la fois cette habitation de ces personnes qui ont habité ces habits, mais qui ne les habitent plus, et qui donc dit à la fois la présence, l'absence, cet entre-deux, c'est peut-être ça, cette présence entre fragilité de ce qui a été et de ce qui n'est plus. Et quel sens, oui,
pardon,
allez-y.
Une espèce d'acte désespéré aussi de rédemption d'une chose qui est en perdition, du schmatès qui est en perdition,
oui. Qu'il faut... Voilà, alors de le récupérer, et je me dis, quel sens, Michel Nedjar, vous donnez à l'utilisation de ces objets que vous trouvez, que vous ramassez, que vous récupérez. Cette liturgie de la récupération me fait penser à un texte du Talmud qui dit que Moïse récupéra les débris des premières tables de la loi et les mit dans l'Arche Sainte. Et le Talmud apporte un joli commentaire, il dit « Il faut respecter les anciens qui ont perdu la mémoire en souvenir du temps où ils en avaient encore. » Et le Talmud ajoute cette phrase magnifique « L'homme brisé par le temps n'est pas un débris. » Michel Nedjar.
Moi, je vais rajouter que mon travail n'est pas du tout conceptuel. C'est un travail qui est complètement lié à mon existence, dans la douleur, ma façon de voir le monde, de vivre. Mais je ne conceptualise pas du tout. C'est quelque chose, et j'ai beaucoup de mal à dire cette chose, quelque chose de physique. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec la poupée, comme j'ai pris la poupée comme objet de création, mais depuis que je suis gosse, je fais des poupées. Depuis que je suis un petit garçon, je fais des poupées et je dessinais. Et même encore, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé, mais monsieur Nedjar, vous en avez pas marre de faire des poupées? Je dis, comment je pourrais en avoir marre puisque la poupée m'a sauvé? Alors on me dit, elle vous a sauvé de quoi? Alors là, il faut que je raconte. Déjà là, il faudrait au moins 4 émissions.
Justement, alors, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir une prochaine émission dans laquelle nous allons consacrer cette prochaine émission à la poupée, justement. Là, dans cette première émission, nous avons parlé de la matière avec laquelle vous travaillez. Il faut dire aussi qu'il y a des œuvres de papier, que je l'ai dit au début, magnifiquement exposées. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la matière. différentes. Il y a de la cire, que vous travaillez au fer à repasser d'une certaine manière. Mais tout cela, je pense que nous allons en parler la semaine prochaine. Messieurs, en tout cas, je vous remercie pour ce très bel échange et très émouvant dans les récits que vous avez apportés, Michel Nedjar, et très éclairant dans les commentaires que vous en avez donnés, Jean-Michel Bourg. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre ces réflexions et pour faire plus ample connaissance. Je rappelle le titre et les coordonnées de l'exposition qui se tient au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Michel Nedjar, présence jusqu'au 23 octobre. Encore merci.
Merci à vous.
Merci.
C'était Talmudique, une émission préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son, comme d'habitude, Philippe Palares, à la réalisation, comme d'habitude aussi, Dany Journeau. Vous pouvez retrouver toutes les indications concernant la biographie et la bibliographie aussi de des différents catalogues de Michel Nedjar sur le site de l'émission Koltouv. L'œil traot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.